Chers frères et sœurs, lorsqu'un nouveau venu franchit les portes du temple pour assister au culte, parmi toutes les découvertes qu'il peut faire, il ne manquera pas d'être donné par le fait que nous fassions une prière de repentance ou une humilité, qu'on peut aussi appeler une confession du péché. Il sera peut-être même étonné qu'il y ait un moment aussi sombre dans le culte rendu à Dieu qui ne devrait être que joie, puisque tel que nous l'avons entendu, la vocation des disciples de Jésus, c'est que leur joie soit parfaite. Et voici que le culte le dimanche matin commence par ce moment qui pourrait ressembler à un moment de dolorisme. Dans la tradition de Yom Kippour, lorsqu'on fait la liste de tous les manquements possibles, on bat sa coupe à chaque indication du péché qui a pu être commis, individuellement ou collectivement. Et on se dit que cela ne peut être que le fait d'un temps ancien. De nos jours, nous ne pouvons plus nous contenter d'une religion qui, en quelque sorte, prêcherait le dolorisme, qui s'abîmerait dans un regard extrêmement sombre et pessimiste de l'humanité. Et pourtant, dimanche après dimanche, la prière de repentance continue à structurer notre culte. Et pour autant, nous ne disons pas que les protestants, puisque c'est de nous dont il s'agit là présentement, doivent avoir les attributs du triste cire, montrant manifestement que le chrétien est fait pour souffrir, souffrir, souffrir. Alors, qu'est-ce que la repentance? L'idée que nous en faisons est que c'est une prière dans laquelle nous faisons la liste de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs, de tout ce que nous avons raté, de toutes les lois que nous n'avons pas respectées. Et dans une certaine mesure, la prière de repentance de ce matin était un peu de cet acabit, une sorte de liste qui passe en revue tous nos manquements possibles. Quand dans le déroulement du culte, et là ça va être un peu technique, mais cela fait partie de la catéchèse pour, disons, les catéchumènes, lorsque dans le déroulement du culte, la loi, la volonté de Dieu, est placée avant la prière de repentance, elle est destinée justement à nous faire prendre conscience de ce que nous avons raté. La loi dit ce que nous aurions dû faire, et du coup, nous nous rendons compte de ce que nous n'avons pas fait, par contraste. C'est ce que Jésus fera en quelque sorte à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Il fait un peu un catalogue des bonnes pratiques. Et si nous n'avons pas fait ces bonnes pratiques, alors nous ne pouvons que constater que nous sommes éloignés de la cible que nous aurions dû atteindre. Toutefois, la repentance est bien autre chose qu'une liste plus ou moins bien remplie de nos fautes. Et d'ailleurs, ce psaume 51 ne fait pas un catalogue de toutes les erreurs que David a commises. Et pas la peine de me croire sur parole, il suffit de lire les textes. David n'était pas un saint. Du moins, au sens de celui qui ne fait aucune faute. Et peut-être que la sainteté n'a aucun rapport avec le fait de ne jamais se tromper. Nous pouvons très bien prendre connaissance de tout ce que nous avons fait de mal, et qu'en fait cela ne change rien. Il y a encore quelques mois, nous avons eu un exemple disponible pour tout un chacun, à celui à qui on dit « Mais vous avez fait ceci, ceci, ceci et cela. » L'indifférent répond avec une certaine tranquillité « Oui, et alors ?» Faire le lecteur de toutes ses fautes n'est pas forcément synonyme de repentance. La repentance, c'est le fait de prendre conscience qu'il y a un problème. C'est le fait de prendre conscience de la gravité d'une situation et en avoir le regret. Dans la langue hébraïque, la repentance se dit teshuvah, un mot qui veut dire retour, sous-entendu retour à Dieu. Et d'ailleurs, dans cette prière de repentance, vous avez entendu que toutes les fautes qui étaient évoquées étaient dites comme ayant été faites devant Dieu. Et ici même, dans le psaume 51, David dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul ». Alors qu'il a fait un peu plus que cela, mais je vous en reparlerai. C'est en regardant notre vie, non pas simplement en fonction de notre intérêt personnel, non pas simplement en fonction de ce qui nous arrange, que nous pouvons effectivement prendre conscience du mal que nous avons pu commettre délibérément ou involontairement. C'est face à Dieu, c'est-à-dire face à de l'altérité, face à ce qui a une valeur absolue, face à ce qui dépasse largement notre seul intérêt, notre seul bon plaisir. C'est face à Dieu, face à ce qui rend notre vie humaine, que nous pouvons savoir si nous avons effectivement été humains, ou plutôt inhumains. Certains diront que leur prière de repentance se fait en pensant à Jésus, figure de l'humanité. Eh bien voilà, la repentance, la prière de repentance, se fait en nous plaçant face à ce qui peut effectivement incarner l'humanité, pour que nous puissions prendre conscience de la distance qui nous sépare de l'humanité pleine et entière. Et voyez-vous, quelqu'un que nous ne portons pas forcément dans notre cœur, mais que nous avons dans le symbole des apôtres, Ponce Pilate. Ponce Pilate est un peu dans le créneau comme un chien dans un jeu de quilles. Eh bien, celui qui, en fait, à considérer ce qu'était la vie non pas simplement en fonction de son intérêt personnel, mais aussi au regard de l'absolu, en disant de Jésus, Ecce homo, voici l'homme dans sa plénitude, voici l'homme tel que nous pouvons espérer l'être nous-mêmes. C'est sous la plume de Jean, alors peut-être le propos est-il un peu ironique au sens où Ponce Pilate ne se rend pas bien compte de ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit, c'est que, en regardant à Jésus, nous pouvons découvrir ce que signifie être humain. Et bien voilà le sens de la prière de repentance faite face à l'Éternel. C'est que nous ne réfléchissons pas à ce qu'il a dit simplement en fonction de ce qui nous arrange, mais en fonction de ce qu'elle pourrait être, pleine et entière. Peut-être tout ce que nous avons fait a-t-il été bénéfique pour nous? Mais cela ne signifie pas que cela a été juste pour les autres aussi. Et c'est bien là tout l'enjeu. Nous pouvons avoir l'impression d'être heureux, vraiment heureux. Mais peut-être notre bonheur s'est-il construit sur le dos des autres. Et la teshuva, c'est prendre conscience de cela. Se placer devant Dieu, comme on le dit en christianisme, ou devant les faces de Dieu, au pluriel, comme on le dit dans le judaïsme, c'est examiner notre vie en tenant compte aussi des conséquences de nos actes, de nos paroles, de nos pensées sur les autres personnes qui incarnent les faces de Dieu. Et dans une certaine mesure, le prédicateur est celui qui a le plus de chance dans l'assemblée, car il est face à tous les visages qui, précisément, renvoient ces différentes incarnations. C'est la raison pour laquelle il est toujours utile de participer à la vie communautaire. C'est de pouvoir croiser les faces de Dieu. C'est de pouvoir se décentrer de soi-même. C'est de pouvoir découvrir dans le visage de l'autre une attente, une exigence, peut-être une souffrance, peut-être un regret, une déception. Et cela nourrira aussi notre propre toujours. La foi qui nous met en relation avec l'éternel élargit donc notre vision du monde, notre vision de la vie. Elle élargit l'espace de notre temps, pour reprendre le prophète Ésaïe. Elle nous permet de tenir compte de ce que les autres vivent et de ce qu'ils ressentent. La foi nous fait considérer que nous ne sommes pas le centre du monde et que nous ne sommes pas non plus le centre de notre monde personnel. Nous ne sommes pas fondamentalement plus heureux parce que nous ne prendrions soin de nous-mêmes. Selon le mot du pasteur Martin Luther King, lorsqu'il y a quelque part une situation d'injustice, alors nous ne pouvons pas nous targuer qu'ici le monde est juste. Lorsque quelque part un homme ou une femme souffre, alors nous-mêmes, nous souffrons. La foi qui nous fait prendre Dieu au sérieux donne de l'importance aux autres personnes qui sont à la même distance de Dieu, qui sont porteurs de la même dignité que nous, qui ont la même valeur. Voilà ce que David exprime dans le psaume 51. Il exprime sa vive conscience de n'être pas seul au monde. Il exprime sa vive conscience que le monde ne tombe pas autour de lui alors qu'il est le roi, et que ce qu'il a fait a peut-être fait tourner le monde un peu moins bien finalement. En n'étant pas très humain, il a plutôt fait reculer l'humanité qu'il ne l'a fait progresser. Et au bout du processus de repentance, David prend conscience du gâchis qu'il a connu. Et dans une certaine mesure, la repentance devrait toujours nous conduire à cela. Découvrir le gâchis. Il prend conscience de l'écart qu'il y a entre ce qu'il était capable de faire et ce qu'il a fait effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions plutôt parler de confession du péché plutôt que de confession des péchés. Il s'agit de prendre conscience de la distance qu'il y a entre la personne que nous sommes et la personne que nous pourrions être et faire en sorte que cette distance se réduise. Il ne s'agit pas de s'accabler de tous les maux. Il ne s'agit pas de vivre avec sur les épaules la charge de toutes les fautes, de toutes les erreurs, de tous les manquements que nous avons commis. Il s'agit plutôt de prendre conscience de notre situation réelle et d'en faire quelque chose. Comme le dit ce psaume, reconnaître nos transgressions au pluriel pour constater notre péché au singulier. Maintenant que j'aurais pris un ton un peu martial, je vais essayer de retrouver le sens du sourire et de la joie parfaite. Et de vous faire découvrir que derrière cela s'insinue l'Évangile. Il s'agit en fait de découvrir, par ce processus de choix, que nous ne sommes pas des êtres finis. Et si nous ne sommes pas des êtres finis, cela signifie que nous sommes des êtres infinis. Et c'est le début de l'Évangile. Puisque nous sommes des êtres infinis, cela signifie que nous avons une marge de progression dont nous pouvons faire quelque chose. Voyez-vous, si le dimanche matin, nous nous contentions de faire la liste de toutes nos fautes, alors effectivement, nous serions les personnes les plus désespérées au monde, accablées par l'accumulation de toutes ces erreurs. Mais ce psaume 51 nous indique que la reconnaissance du péché, notre confession, laisse place aux améliorations possibles. Et ce psaume parle d'allégresse. Ce psaume parle de joie. Et ce psaume est souvent méconnu parce que la traduction latine nous emmène sur un mauvais chemin. Ce psaume, on l'appelle miserere. Misère, misère. Et on sent que ça va mal se passer. En hébreu, c'est le verbe « hanan », faire grâce. Et c'est ainsi que je l'ai traduit, « fais-moi grâce dans ta bonté ». Dès le départ, Cette prière est orientée vers la grâce, vers la résolution positive de la teshuva, et non pas vers l'accablement. Ce psaume, si je voulais le forcer un peu, parle de résurrection après la mort que suppose la confession du péché. Et ce psaume continue sur de bonnes choses. Et ce psaume est extrêmement moderne. Ce psaume n'est pas du tout la trace d'un spiritualisme archaïque, primitif, où il faudrait qu'il y ait du sang qui nous ligne pour combler les manquements, pour réparer les fautes. Ce psaume le dit, par la bouche d'David. Ce n'est pas au sacrifice que l'Éternel prend plaisir. Ce n'est pas en égorgeant les victimes que l'Éternel sera soudainement réconcilié avec notre petite personne. La vive conscience de notre condition réelle, voilà ce que le psaume nous indique, voilà ce que l'Éternel attend. Que nous n'en restions pas à notre état actuel d'insatisfaction. Et notre culte, ici même à Melbourne, traduit cela. La loi n'est pas avant la confession du péché, elle est après. Je ne sais pas s'il y a des luthériens parmi vous, mais c'est l'usage plutôt calvinien de mettre la loi après. Ça veut dire que la loi n'a pas cette fonction pédagogique de révéler notre faute et notre situation de pécheur. La loi est une question de ce que nous sommes rendus capables de faire. Nous sommes des êtres capables de certains accomplissements. Nous sommes des êtres éthiques, capables de viser le juste. Dans le culte, mettre la loi après, c'est ouvrir un chemin. C'est dire que nous ne sommes pas condamnés à être accablés en permanence et à nous enterrer sur place. Alors, en disant cela, je me démarque de l'idée selon laquelle nous serions tous marqués du sceau du péché originel, la faute d'Adam et Ève qui se transmettrait de génération en génération, faisons de nous tous des pécheurs incapables du moindre bien. Et c'est là que vous allez commencer à pouvoir ramasser les pierres pour ma lapidation à venir. Peut-être. J'ai apporté quelques arguments tout de même. Le psaume 51 peut nous donner effectivement l'impression que le croyant pense cela aussi. Lorsqu'il dit qu'il est né dans l'iniquité de sa mère, la mise au monde dans le péché. Cela peut donner à penser qu'effectivement c'est l'histoire du péché originel qui a fait que David ne pouvait pas faire autrement que de se fourvoyer. Le péché originel comme maladie génétique qui se transmet de génération en génération et qui fait que dès que nous venons au monde, nous sommes d'irrémédiables pécheurs, incapable de faire le bien. J'aimerais que nous reprenions l'histoire de David pour comprendre ce que peut signifier ce verset 7. Voici que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La prière de ce psaume 51, nous l'avons compris avec le préambule, intervient après que le prophète Nathan a ouvert les yeux de David sur ce qu'il vient de commettre, sur l'atrocité qu'il vient de commettre, et même une forme de double faute. Que s'est-il passé? Il a eu des relations sexuelles avec Bathsabée, la femme d'un autre, et Bathsabée est tombée enceinte. Le mari de Bathsabée, étant militaire, il était à la guerre. Et alors, pour essayer de couvrir cet adultère qui évidemment va se voir de plus en plus mois après mois, ils se disent, bon, Uri, ton mari, va rentrer du champ de bataille, vous allez coucher ensemble, et il pensera que c'est lui le père. Uri, le mari de Bathsabée, préfère se consacrer à sa mission, pas de relation sexuelle, pas de possibilité de camoufler l'affaire. Alors David décide de l'envoyer au front et une embuscade permet à David d'éliminer Uri. Uri ne sera plus en mesure de lui reprocher quoi que ce soit. Il est mort dans une embuscade. Voilà donc le motif à partir duquel David va exprimer sa repentance dans ce sens. Que vient faire la mère de David dans cette histoire? Pourquoi dit-il, je cite, « Ma mère m'a conçu dans le péché. » On a l'impression qu'il se défausse sur sa mère. On a l'impression qu'il est en train de dire « C'est pas moi, c'est ma mère. » Jamais un fils ne dirait ça à sa mère. Un fils couvre sa mère quand il arrive. Son père, je ne dis pas, on peut le crucifier plusieurs fois, mais sa mère, jamais un fils dirait ça à sa mère. Sauf si c'est vrai. Le fait que David ait parlé d'iniquité peut nous mettre sur la piste. De quoi s'agit-il? Dans le livre de Jérémie, notamment, l'iniquité est en fait rapportée à l'infidélité. Et le peuple d'Israël est souvent accusé d'iniquité, et en fait, la métaphore qu'on utilise, c'est qu'il est infidèle à l'Éternel. On parle d'une chamelle qui galope. Une hypothèse possible est donc que David est lui-même le fruit de l'adultère. Et l'hypothèse, c'est qu'en fait, David a répété le scénario qui avait été celui de sa propre naissance. Et pour confirmer cette hypothèse, je vais chercher un élément biblique dans le récit de 1 Samuel 16 qui raconte l'entrée en scène de David. C'est au moment où David va recevoir l'onction. Le prophète Samuel va chez Isaïe, réputé être le père de David. Au verset 6, Samuel commence par voir Éliab, dont le texte dit qu'il était haut de taille. Et Samuel se dit, voilà, c'est lui qu'il va falloir moindre. L'Éternel dit. Et il va voir pour le deuxième fils, et ainsi de suite. Et puis, à chaque fois, ce n'est pas lui. Alors, Samuel interroge Isaïe, et Isaïe lui dit, mais 7 fils ont été passés en revue. Mais 7 fils ont été vus. Et Samuel lui dit, n'y a-t-il pas d'autres jeunes hommes dans ta maison? Et là, il dit, Isaïe dit, ah oui, il y a le petit. Non pas le jeune, mais le petit, le tacon. Ces 7 fils qui ont été passés en revue, on lui demande s'il y a un jeune homme qui ne traînerait pas un peu dans l'arrière-boutique. Ah oui, il y a le tacon, le petit. Dans le texte biblique, dit qu'il était roux et qu'il avait de beaux yeux. Pour les beaux yeux, ça, c'est pas forcément très intéressant, mais le rédacteur s'attarde sur le fait qu'il y a un détail qui visiblement diffère. Non seulement la taille diffère, la couleur de cheveux diffère. Ça fait beaucoup pour un seul homme. L'hypothèse est qu'il y a donc manifestement un problème de filiation. Et hop, dans cette généalogie-là, ce ne serait pas tout à fait la première fois qu'il y a un problème de filiation. Il y en aura de nombreux dans cette filiation qui mène de Abraham jusqu'à Jésus. Il est donc très probable que celui qu'on nomme Isaïe ne soit pas le père de David. Et qu'effectivement, David dit juste. Il est né dans l'iniquité, sa mère l'a mise au monde dans le péché. La prière de repentance permet d'identifier ce qui pose problème et de rompre ce cercle infernal des scénarios de vie. La prière de repentance permet de sortir de cette répétition de génération en génération. La prière de repentance n'est pas là pour dire « tu as commis le mal, tu vas te faire sanctionner ». La prière de repentance est là pour ouvrir l'avenir, pour éviter d'être condamné à répéter inlassablement les mêmes erreurs. La prière de repentance permet de sortir de la transmission de ces secrets de famille qui nous pourrissent la vie, dont on ne sait pas ce qu'ils sont le signe, mais qui créent bizarrement dans l'organisation familiale un décalage, une disharmonie qui se répète de génération en génération. La prière de repentance permet de sortir des schémas familiaux qui ne fonctionnent pas, de sortir peut-être aussi parfois des schémas sociaux qui ne fonctionnent pas, et on pourrait dire aussi des schémas ecclésiaux, des schémas amicaux. Pratiquer sincèrement la prière de repentance, ce n'est pas du masochisme, voyez-vous. C'est au contraire un moyen très efficace d'être un peu plus libre. Libre par rapport à nos déterminismes. Libre par rapport à nos conditionnements. Libre par rapport à ce qu'on a fait de nous et qui ne nous correspond pas forcément. La prière de repentance nous permet de prendre conscience de notre situation réelle. De ce que nous sommes vraiment. Avec nos faiblesses, mais aussi avec nos potentialités. Et au fond, si quelques reproches sont à nous faire, quand on reproche à nos jeunes, à nos enfants, je ne sais pas moi, de n'avoir eu que 14, c'est bien parce qu'on imagine qu'ils auraient été capables d'avoir plus. C'est finalement une preuve de confiance quand on leur fait des reproches. Quand on commence à s'habituer à la médiocrité, eh bien, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'espérance sur eux. La prière de repentance, c'est ce qui nous permet de ne pas être l'esclave de ce qui nous empêche de mettre en œuvre nos compétences, nos capacités, nos talents. C'est ce qui nous permet de lever les freins, de ce qui retient les barrières qui jusque-là nous retenaient. La prière de repentance nous permet de mettre en lumière la vérité de notre situation. Or, c'est la vérité qui nous rendra libres. La prière de repentance, en identifiant nos échecs, repère les raisons de nos difficultés. Et nous avons vraiment tout intérêt à repérer les raisons de nos difficultés. Et vous savez, les théologiens ne devraient pas trop reprendre les conseils de management. Mais il y a quand même une règle de management qui n'est pas tout à fait inintéressante. Quand tu as un problème et que tu ne trouves pas de solution, c'est que le problème, c'est toi. Et la prière de repentance permet de travailler sur soi pour résoudre la part du problème qui est notre part. Elle nous permet de repérer, par exemple, les ornières dans lesquelles nous sommes parfois coincés, les ornières desquelles nous n'arrivons pas à sortir, comme un mauvais pli qui serait pris dès le départ lorsque nous repassons la chemise et qui ira jusqu'au bout de la manche. Par exemple, certains ne connaissent que des déceptions amoureuses. Et ils ont beau changer de partenaire, ils sont toujours déçus, souvent de la même manière. Parce qu'en fait, ils tombent toujours sur les personnes qui ont le même profil et les mêmes problèmes. Mais c'est parce que le problème se trouve chez eux aussi. Et qu'ils le repèrent chez celui qui devient le partenaire et qu'ils reconnaissent quelque chose qui leur appartient. Et ils se collent ainsi. La touche mort nous permet de renverser cela, de renverser notre destin en destinée, pour le dire un peu philosophiquement. Et entendez ce que dit David dans ce psaume, ou ce que l'on fait dire à David plus exactement. De transgresseur, il est possible de devenir éducateur. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, dit David, afin que les coupables reviennent à toi. Qu'ils fassent teshuva eux-mêmes. On fait sa teshuva et ensuite on permet aux autres de faire leur propre teshuva. Il y a une sorte de cercle vertueux. Il y a une sorte de propagation heureuse. La teshuva, voyez-vous, c'est une manière de noter une posture intérieure qui nous rend capable d'accueillir la grâce d'être libérés d'un passé qui, parfois, plombe notre existence.